Oui, bonjour à tous. Là, je suis en train d'écouter le magazine régional sur la 3 midi et demi. Et Madame Parisot qui s'offusque des parachutes dorés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années? Mais ils les ont cautionnés, ces parachutes dorés. Et maintenant, retournement de veste, retournement de pantalon et tout, et tout. Et maintenant, ils sont contre. Et maintenant, ils se défendent. Nous sommes contre les parachutes dorés. C'est une honte. Il ne faut plus rémunérer les patrons qui s'en vont. Non, mais ils se foutent de la gueule de qui? Pendant des années, ils ont cautionné ce genre de choses. C'est une honte. Allez, bon courage, ciao.
Oui, bonjour Daniel, c'est Laurent dans la Loire. Moi, je voudrais réagir sur le fait qu'ils veulent se servir des livrets pour financer la crise. Moi, je serais d'avis de dire à tous les possesseurs d'un livret de retirer leur argent. Pour leur faire voir qu'on n'est pas content. Parce que ça commence à bien faire. Allez, merci. Bon courage.
Info relayée par France Inter. Christian Clavier a reçu par la poste une lettre anonyme lui enjoignant de quitter la Corse sous peine de voir sa villa architecturalement revisitée pour qu'elle ne détonne plus dans le paysage. Le directeur de la poste en Corse peut commencer à faire ses cartons pour être responsable de ce crime de lèse ami du président. Non mais, c'était Pascal Dumont. Bonne journée à tous.
Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que le sauvetage des banques par nationalisation aurait été constitutionnel avec la Constitution européenne?
Bonjour à tous, bonjour Daniel. Voilà, je vais vous faire part de ma situation personnelle pour une fois. Voilà, il y a quelques mois, j'ai été licencié de mon usine, car j'avais connu mon patron et donc il avait toutes les raisons de me virer. En fait, là, n'est pas le sujet. J'étais délégué syndical quand même au passage. Ensuite, je suis arrivé à l'NPE et j'ai fait savoir mon projet professionnel d'aide-soignant. Donc, j'ai fait les recherches nécessaires et j'avais une formation qui démarrait donc ce mois-ci, au début octobre. Et seulement, la formation coûtait 2000 euros. Donc, j'ai écrit aux ACDIC à l'NPE pour demander le financement avec l'appui du Conseil général de l'Isère. Et donc, tout m'a été refusé. Donc ben voilà, la seule solution c'est que je reste chômeur jusqu'à que je sois au RMI et ensuite au RMI la formation me sera financée. Voilà, c'était pour dire que c'est ça aussi la politique de l'emploi. Voilà. Merci. Au revoir, c'était Patrice de Grenoble. Bye.
Bonjour, je suis Philippe. Et Philippe, aujourd'hui, voulait adresser un grand merci à la Basse Si J'y Suis et en particulier à Renaud Lambert pour son magnifique reportage sur la poste, notre poste, celle du facteur de province qui porte ses médicaments à Lucienne parce qu'elle est seule et qu'elle en a besoin, celle du guichetier qui conseigne et renseigne et qui n'essaye pas de vous vendre tout et n'importe quoi. Voilà, un grand merci.
Oui, bonjour. Je reviens sur l'émission consacrée à la poste et notamment aux visiteurs mystères. Bon, mis à part la petite situation comique engendrée par le journaliste, c'est une petite parenthèse parce que je trouve que c'est un procédé particulièrement immonde. Alors pour l'instant, les postiers à l'accueil sont fonctionnaires, donc ils risquent une petite réprimande de la part de leur supérieur lorsqu'ils n'assomment pas le client de proposition commerciale. Mais après, lorsque ce sera privatisé, évidemment, là, ils vont risquer leur place. Alors on devine. Bien sûr, la pression, hein. C'est un petit peu ce qui se passe à France Télécom. Il y avait un article il y a quelques mois dans Que Choisir sur justement les techniciens qui sont obligés de faire la rentabilité. Et même lorsqu'ils arrivent au domicile d'un particulier, s'il n'y a pas de problème ou si le problème vient de France Télécom, il faut quand même faire raquer, il faut ramener de l'argent. Donc c'est ce qui va nous arriver pour la Poste. Puis une petite parenthèse justement au sujet de la Poste. On a vu qu'il fallait ouvrir le capital pour trouver 3 milliards pour être compétitif, bien évidemment. Mais c'est marrant parce que les 3 milliards, on les a trouvés sans problème pour renflouer une banque privée d'Exia. Hein, quand même, l'argent, on peut en trouver facilement hein, pour le privé, il n'y a pas de souci. Et puis juste une dernière note, hein, un petit peu pour les auditeurs militants. Moi, désormais, lorsque je vais aller à la poste, la première chose que je vais dire, c'est que je ne suis pas le visiteur mystère, histoire de détendre un petit peu l'ambiance. Et ce serait bien que tous les auditeurs se sentent un peu concernés et puis fassent également la même chose. Voilà, un petit mouvement de protestation bien sympathique et puis militantisme. Voilà. Allez, bonne journée. Salut.
Salut, merci pour ces messages, amis modestes et géniaux, auditeurs, auditrices, modestes et géniales. Eh ben aujourd'hui, on reste à la poste. On fait toujours la queue depuis l'autre jour. pour se demander si oui ou non, la poste française sera privatisée, malgré une opinion opposée, très opposée à cette privatisation, et surtout malgré les circonstances, cette crise financière qui montre un vieux principe qu'on dénonçait jadis du côté des staliniens, du côté des pays communistes. On disait, dans ces pays-là, la réalité n'affecte pas le dogme. La réalité n'affecte pas le dogme. Eh bien, il se pourrait bien que, actuellement, ce soit exactement la même chose qui soit à l'œuvre. La réalité, c'est-à-dire cette crise financière, remettra-t-elle ou non en cause le dogme ultralibéral qui veut que depuis 25, 30 ans, eh bien, on libéralise, c'est-à-dire qu'on privatise à tour de bras, mais selon des lents scénarios mis en place et conduits peu à peu jusqu'à la privatisation et tout ce qui s'ensuit. La Poste, c'est pas n'importe quelle entreprise. Les Françaises et les Français que vous êtes le savent bien et tiennent absolument à leur poste. Alors on va passer encore 7 heures à la Poste, mais avec une référence, alors celle-ci très très populaire en France, celle du film Les Ch'tis. Et oui, Les Ch'tis, il y a des scènes qui se passent à la Poste. Une Poste évidemment imaginaire, rêvée, souhaitée, nostalgique. C'est ce qu'on verra au cours de 7 heures. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Françoise de Haute-Savoie. Je fais partie de l'équipe grandissante des 180 militants qui se relayent devant l'Organisation mondiale de la santé pour revendiquer son indépendance vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est grand temps que les populations soient informées sur les conséquences dramatiques engendrées par les accidents liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire. C'est le rôle et c'est le devoir de l'OMS. C'est pourquoi nous commençons demain lundi notre 76e semaine de vigie. Olivier, Mireille et Christophe seront présents jusqu'à vendredi et de 8h à 18h. Nous sommes convaincus et nous sommes résolus. Merci, bonsoir.
Salut Daniel, je vais essayer d'attirer ton attention sur le fait que nos soldats allés en Afghanistan se faire dessouder pour protéger des anciens du pétrole, comme M. Karzai. Son frère était impliqué dans le trafic d'héroïne en Afghanistan. Alors je te rassure, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site internet du New York Times. Voilà, des rapports ont clairement établi les liens entre les trafiquants d'héroïne et bien sûr le frère de Karzai, qui est le trafiquant numéro un en Afghanistan. Elle est belle la démocratie, elle est belle la morale. Allez, vive l'armée française.
À Metz, ce vendredi, c'était la première nuit blanche. Un peu comme à Paris, mais en moins grand. Et en 2009, on aura un centre Pompidou. Ah, attention, à Metz cet été d'ailleurs, on a eu droit à Metz Plage. Hein. Et bientôt des Vélib, des vélos en libre-service. Mais aujourd'hui à Metz, le 6 à 6 heures du soir, c'est le repère des amis de la Bastille-Jussy. Et on parlera de pourquoi Metz se prend pour Paris. Poupoupidou, waouh!
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Eh bien, ce petit message, c'est pour dire à tous les bisontins que le repère, ça reprend ce soir, comme d'habitude, à 20h, au Carpe Diem, place Jean Gigou, à Besançon. Voilà, eh bien, on vous attend nombreux pour discuter, il y a matière hein, en ce moment. À bientôt, au revoir.
Allô, allô à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Voilà, c'est Hugo à Dijon. Le repère de là-bas si j'y suis a repris ses activités. depuis déjà un mois. Donc rendez-vous demain soir au Vieux Léon à partir de 19h30, début des festivités à 20h. Là, je crois qu'on va parler de fin d'échange sur les nanotechnologies et puis discussion autour du film des Mutins de Tanger et de la Bastille J'y suis. Chomsky et compagnie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. À bientôt.
Bonjour, c'est au sujet de l'émission de Moati hier soir à Riposte. J'ai jamais vu un ministre se faire moucher de cette façon-là. Continue, Olivier, on est tous derrière toi.
Il n'y aura pas de privatisation de la Poste.
Luc Châtel, porte-parole du gouvernement.
Ce que nous voulons, c'est moderniser la Poste, l'adapter aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui.
Non, monsieur.
On a besoin d'une Poste puissante.
Voilà. Non, on veut notre Poste. Voilà. Nous sommes descendus pour ça, déjà.
Donc, nous ne privatiserons pas la Poste.
Incapacité terminale.
Mais nous souhaitons la modernisation de la Poste pour qu'elle soit un acteur important au niveau européen.
C'est clair et net, hein. Et puis c'est accueillant, la pose dans un village, on est bien accueilli, c'est vivant, c'est tout. Hein. On touche les écoles, on touche alors ça. Hein. Il faut quand même arriver à un point final, quoi, que ça s'arrange et qu'on garde notre pose, voilà. Qu'on en est fiers.
La Poste !
Danny Boone, comique.
La Poste, mais rien que la pub de la Poste.
Bougez avec la Poste.
T'as qu'à écrire cette pub, ils sont jamais allés à la Poste. Ah.
Auteur du film, bienvenue chez les Ch'tis.
Mais alors, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux.
Nous allons confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT.
Salut, c'est Daniel Mermel, voici j'y suis avec Renaud Lambert. Touche pas à ma Poste.
Flight number 2.
Être au pont le 24 septembre 2008, à monsieur le directeur de la Poste. Monsieur, alors qu'hier le journal de 20h nous montrait des images de la manifestation contre la privatisation du capital de la Poste, une réforme bien plus sournoise et bien plus silencieuse frappe nos campagnes. La fermeture des bureaux de poste dans nos villages.
Être au pont le 4 juillet 2008. Je sous-signe monsieur Cavignac-Claude en tant que commerçant et citoyen de la commune d'Étré au pont. Je n'accepte pas vos décisions pour la fermeture de la poste l'après-midi.
Alors, monsieur le maire, nous sommes naturellement d'accord pour vous apporter notre soutien dans votre démarche contre la fermeture de votre bureau de poste les après-midi.
Je suis notaire à la résidence d'Étré au pont depuis près de 25 ans et je m'associe naturellement à la demande de l'ensemble des habitants d'Étré au pont pour le maintien actuel des plages horaires du bureau de poste.
Nous sommes en tant que commerçants totalement opposés à cette fermeture.
Vous ne pensez pas aux personnes âgées, les personnes sans voiture et aux conséquences que ça peut faire.
La Poste avait toujours jusqu'à présent une image de service public. Quand va-t-on cesser de penser trop court et de regarder uniquement le critère de productivité immédiate?
Cette décision me paraît inacceptable pour le village et les commerçants.
Cette réduction d'amplitude horaire ne pourra que conduire à un ralentissement de notre activité commerciale dont nous n'avons pas besoin dans notre tirage actuel. Déjà bien touché dans le manque de services publics et surtout d'activités commerciales.
Notre postier est un interlocuteur de choix. Que restera-t-il de ses compétences dans un point poste?
C'est pour cela que je soutiendrai... Ah oui, la commune, excusez-moi. Pour le maintien de l'ouverture de la poste toute la journée.
Laissez-nous vivre dans nos campagnes. Oui. Ne touchez pas à notre poste.
Signé Jean-Claude Tourné, Alimentation Générale à Étré-au-Pont.
Je vous prie d'agréer, monsieur, mes sincères salutations.
En espérant que ce courrier vous aidera à aboutir, veuillez agréer, monsieur le maire, nos sincères salutations.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations, monsieur boucher, charcutier, traiteur.
La population est solidaire de l'action entreprise par le conseil municipal d'Étré-au-Pont et décidée à mener des actions vigoureuses à l'encontre de ces propositions. Veuillez agréer, monsieur le maire, chers collègues, l'expression de mes sentiments distingués. C'est le maire d'Autrep, monsieur Paul Bass.
Voilà. Autrep, une commune à côté.
Une commune à côté, oui, à quelques kilomètres.
Non, mais non, la Poste ne sera pas privatisée. Eh, confiance, petit poisson. La Poste va être modernisée. Tu es contre la modernisation, petit poisson. La Poste va être revalorisée. Tu n'es pas contre la revalorisation, petit poisson. Tu es contre le gâchis. Tu es contre la gabegie. Tu es contre l'argent fou. Eh bien, la modernisation de la Poste va permettre de réduire les dépenses de l'État. Et confiance, petit poisson. Dents ? Quelles dents ? Ah, mes dents ! Ah, tu trouves que j'ai de grandes dents ? Oh, mais c'est pour mieux te protéger, petit poisson. C'est pour mieux te servir. C'est moi que tu as élu, petit poisson. Et puis, tu le sais, nous n'avons pas le choix. Face à la concurrence, nous ne pouvons faire autrement que d'ouvrir le capital de la Poste. Oh, juste un petit peu. Aie confiance, petit poisson. L'État restera majoritaire, bien sûr. Ah, comme France Télécom, c'était premier juré. Et aujourd'hui, l'État ne détient plus que 27% du capital de France Télécom. Aie confiance, les tarifs n'augmenteront pas. Ah, comme le péage des autoroutes après leur privatisation. Ne sois pas aussi méfiant, petit poisson. Aucun emploi ne sera supprimé. À peine va-t-on fermer encore quelques centaines de bureaux de poste dans les campagnes ou dans les quartiers populaires et réduire les horaires d'ouverture. Mais c'est tout. Il faut être rentable, petit poisson. Petit poisson, connais-tu la RGPP? Ça, c'est très important que tu saches ça, petit poisson. RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques. C'est bien, Révision Générale des Politiques Publiques. Surveiller les politiques publiques afin que chaque euro soit dépensé à bon escient. C'est bien, non? Oh, et tu sais à quoi sert la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques? Eh bien, écoute bien, petit poisson, à la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. Je te le répète, mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. Et ça dure, vois-tu, petit poisson, depuis des années, ce et ces scénarios de réformes structurelles. Et pourquoi donc? Eh bien, pour moderniser, pour revaloriser, des efforts constants pour réduire les dépenses de l'État, petit poisson. Voilà. Tu n'es toujours pas d'accord? Tu es têtu, petit poisson. Tu es archaïque. Tu es conservateur. Voilà pourquoi cette heure t'est entièrement consacrée dans la base Si j'y suis. À 16h, tu diras merci, requin.
Et donc Ornicard, nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée, on fait les lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. La force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao, Barataclao,
Barataclao,
Barataclao,
Barataclao. L'histoire se passe à notre insu, dans les salons les plus cossus, les décisions les plus values, et tout ça finit dans la rue. On jette l'eau du bain avec l'ONU. Voici la GCS et toute la clique pour mater le service public. On dit qu'il est caduc, inique. Pour les libéraux les plus cyniques, tout passe par l'économique. Comme on dit qu'on connaît la musique, il nous crée des signes qui compliquent. Pour que le quidam n'y comprenne quick, tout ça finit par laisser quoi. Le temps est bien à l'argent roi. On dit que l'argent c'est du temps. On n'a plus le temps de prendre le temps. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée on fait des lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 Barataclao.
Bienvenue chez les ch'tis.
Bonjour madame, c'est pour quoi?
C'est pour faire peser puis t'abrer cette enveloppe. Des beaux timbres s'il vous plaît. C'est pour mon tio, il les collectionne.
Oh, c'est mignon. Ça va, cela? T'as un hérisson au-dessus.
Oh, oui, parfait.
L'enveloppe. Oh, bah de Dieu, 26 kilos.
26 kilos, c'est pas possible. J'ai des grammes.
Ah ouais, je me dis au-dessus, qu'est-ce qu'il y a dedans? 17 nérissons.
17 tonnes pour 26 grammes.
C'est pas grave si je mets aussi 18 boucles, n'est pas assez des nérissons.
Ça va pas, vous vous trompez, hein?
Enfin, laisse mes filles, qu'il n'y a pas assez de place pour les nérissons, là. Voilà aussi que j'avais été de l'autre côté, là.
C'est pas possible, arrêtez, vous vous trompez.
Ouais, ok, là. Dans les quelques 10 boucles, je vous les compte pas, ça, là.
Arrêtez!
Plus de 20 millions, nous sommes plus de 20 millions de Français à nous être amusés, à avoir rigolé en spectacle des ch'tis, et notamment ces scènes qui se passent dans ce bureau de poste. Mais quel est ce bureau de poste? C'est un bureau de poste qui n'existe plus ou qui va disparaître, en tout cas idéalisé et déjà dans nos nostalgies. C'est l'image de ce que n'est plus la poste, mais peut-être de ce que nous rêvons qu'elle soit. Non pas qu'elle fût, mais qu'elle soit. La poste, c'est pas n'importe quoi. C'est un lieu de lien. Les ch'tis le montrent. On a tous des souvenirs de la poste, on a tous des souvenirs du facteur. Et puis, on est sur quelque chose de très très important qui relève d'une nécessité fondamentale. C'est la communication. Nous avons besoin de communiquer. Et depuis longtemps, depuis bien longtemps, la poste est là pour répondre à cette nécessité humaine. Et la privatisation de la poste, qu'on appelle modernisation, enfin avec tous ces euphémismes et cette novlangue que nous commençons quand même à savoir débusquer, à savoir déminer, eh bien veut absolument vendre la poste au marché financier. C'est tout simple. Seulement, comme on est têtu, comme on est archaïque, comme on est ringard, comme on est vieux, etc., les Français, enfin, eh bien, il faut faire ça petit à petit, c'est un long, long travail de sape, basé sur une idéologie, sur un dogme qui est que les marchés ont toujours raison. Et actuellement, le naufrage financier, le Titanic financier sur lequel nous sommes et nous naviguons montre, s'il en était besoin, ce dont il retourne. Et chacun a cette expression aux lèvres, privatiser les profits, socialiser les pertes. Jusque-là, c'était une expression rare de happy few, de ceux qui savaient, de ceux qui connaissent ou de ceux qui s'entêtent. Mais aujourd'hui, on découvre ça. On découvre que ces milliards de dollars pour renflouer les marchés financiers, eh bien, c'est de l'argent qui vient de nos poches, de nos petites économies, des impôts que nous payons tout simplement, que nous soyons états-uniens, que nous soyons européens et demain japonais et après-demain que sais-je. Dans ce cadre-là, il est particulièrement héroïque de vouloir absolument privatiser la poche. Je le disais en commençant, la réalité affectera-t-elle ou non le dogme? Donc, les ch'tis, ça, c'est la vie rêvée d'un bureau de poste. Voilà de quoi il retourne dans la vie réelle.
Valérie et Sylvie, ichtières dans la vraie vie.
Ben, on a des suivis de chiffres. On a ce qu'on appelle la PVA par heure.
Produit. Valeur ajoutée.
Oui, voilà. C'est une sorte de compteur et tous les jours, un tableau est affiché avec notre PVA par heure et par agent. Chacun a ses objectifs individuels et on doit s'y tenir en vendant justement toutes sortes de produits à valeur ajoutée.
C'est quoi votre objectif à vous, la prochaine fois-ci ?
C'est 30 euros par vacation.
Hein. 30 euros par matinée par exemple ?
Ouais.
Aujourd'hui, vous les avez fait ?
Je pense pas, non.
Bon, la pression, à chaque fois qu'il y a une réunion, parce qu'on a des réunions tous les 15 jours pour nous présenter les nouveaux produits, nous inciter à vendre, etc., on nous rappelle toujours que si on ne vend pas, nos salaires sont en péril, nos emplois sont en péril.
Donc vendre des petits crayons, vendre des petites autos, vendre comme on en trouve.
Ça participe non, à faire du bénéfice pour nous payer nos salaires, parce qu'on coûte très cher. Ça, on n'arrête pas de nous le répéter.
Alors, combien vous gagnez?
Oh, environ 1700 euros. Net.
Vous avez combien d'années d'ancienneté?
35.
Valérie, quand on rentre à la poste, on gagne combien?
1250 euros net par mois.
1250 euros.
Oui.
Ça, déjà, ça coûte trop cher.
Oui. Pour la poste, oui, c'est trop cher.
Il y a un système de primes pour récompenser les meilleurs éléments?
À la tête du client. C'est-à-dire que le chef d'établissement a une enveloppe avec tous les bénéfices qui sont réalisés au niveau du bureau et il les dispatche selon ses critères à lui. Par exemple, nous, l'année dernière, au quatrième trimestre, on a touché zéro.
La poste ! Tu es de l'autre côté du guichet face à lui, mais il fait comme si tu n'existais pas. Il dit des phrases du genre « Hey Nicole, t'as vu mes nouvelles godasses ?» Elles sont belles, hein? C'est du daim synthétique. C'est bien imité, hein? On mettrait deux cornes, on dirait un daim. Ah, en fait, ça y est, mes gamins, ils sont partis en vacances. Ouais, ils sont à la montagne, ouais. Non, on n'a pas de nouvelles, non. Non, pas de carte postale, bah, c'est un peu de notre faute.
Danny Boone, dans son célèbre sketch sur la poste, telle qu'elle est. Alors, il y a des... Nombreux sont les Français qui... Majoritaires sont les Français qui sont opposés. 61% selon un récent sondage effectué à la veille des récentes manifestations du 23 septembre. 60% des Français sont opposés à la privatisation de la Poste et beaucoup plus nombreux, autour de 80% des Français se déclarent favorables à un référendum sur cette privatisation. C'est une chose profonde, hein. Là, on est dans des choses très, très... on est dans le fond du pays, dans le cœur du pays lui-même. La preuve à Étréaumont. Étréaumont, c'est une petite ville, bourgade, du Thiérache, dans l'Aisne. Et Étréaumont, donc, s'est mobilisé. Alors, c'est tout le monde qui s'est mobilisé, depuis l'épicier, en passant par le pharmacien, en passant tout le monde, le marchand de vin. Vous voyez, pour 940 habitants, ils ont tout ça. Le marchand de matériaux, Claude Cavillac. Vous connaissez Claude Cavillac des Tréaumont, c'est la boucherie, charcuterie, traiteur. 8 rue du Général de Gaulle. L'Assemblée. Alors, Monsieur Baligan, député de l'Aisne. Enfin, tout le monde s'est mobilisé autour du maire, André de Bouzy, pour dire non à la fermeture du bureau de poste d'Étréaumont, y compris Étienne Taquet, licencié en droit, notaire, successeur de Maître de Camp.
Maître Taquet, vous êtes notaire à Étréaumont. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand on fait le tour d'un petit village comme Étréaumont, il y a un petit peu plus de 900 habitants, c'est que la poste, loin d'être un commerce comme les autres, c'est un peu la clé de voûte qui permet la vie de toutes les personnes qui y travaillent et qui résident à Étréaumont.
Tout à fait, c'est un peu le lieu central, effectivement, de l'activité économique du village. Et c'est vrai que c'est la poste, outre sa fonction, effectivement, de transmission du courrier, est un service auprès de la population. Et si c'est une suppression de ce service qui aurait lieu au détriment et au mépris des personnes les plus défavorisées, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, les personnes âgées ou les personnes à faible niveau de vie.
Pourquoi est-ce que ça serait plus particulièrement problématique pour les personnes qui ont un faible niveau de vie?
Je pense qu'ensuite, ils seront obligés, pour toutes leurs démarches administratives et postales, notamment, d'aller vers d'autres communes. Donc, sans moyen de locomotion, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a aussi la collecte des fonds par la poste, qui est la banque, postale, comme on l'appelle maintenant. Elle s'appelle la banque, donc elle doit maintenir un service de proximité.
Voilà, Ben.
Bonjour, monsieur Bach.
Bonjour.
Bienvenue chez les ch'tis.
Bonjour, monsieur Vasseur. Comment ça va ce matin?
Oh, comme un vieux, mon garçon, comme un vieux. Oh. Dis donc, il paraît qu'il est arrivé, ta nouveau patron.
Ah oui, il est arrivé depuis ce matin, oui.
Ah, je pourrais pas le dire?
Si, c'est possible.
Qu'est-ce que c'est?
Le directeur, il y a un clair qui devrait vous voir.
Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je suis fort content de dire à Trocadius qui va s'occuper de ma compte à banque. Parce qu'il faut pas me raconter des carabistous là. Faut pas m'imbaver, hein. Oh, je suis pas venu ici pour brère, mais si vous pourriez faire une petite avance, hein, jusqu'à la prochaine quinzaine de me retraite.
Prochaine, retraite,
J'ai oui ou non?
Depuis qu'on a ouvert la banque postale, on sent bien que le vœu de la direction, c'est de chasser les pollueurs.
Valérie et Sylvie, guichetières dans la vraie vie.
Tout ce qui est pollueur, pour eux, c'est les gens qui font les opérations qui n'ont pas de valeur. Hein, c'est pas des choses qui, par exemple, envoyer de l'argent par un Western Union, des choses comme ça, faire des mandats, c'est pas intéressant. Donc c'est pas des clients potentiellement intéressants. Eux, ce qu'ils veulent ramener, c'est de la clientèle argentée.
Parce que la poste, les chèques postaux, on est plutôt habitué à ce que ce soit des petites gens qui aient recours. Vous nous dites qu'on ne cherche pas à attirer ces gens-là.
Non, en fait, la poste, on était obligé d'avoir ce genre de clientèle parce qu'ils étaient chassés des banques. Mais il semblerait que la banque postale va prendre la même orientation que les banques, les autres banques, les autres grandes banques.
La poste !
Bougez pas. Vous appelez comment déjà, vous ?
Annabelle de Connac.
Annabelle, vous voulez bien vous occuper de monsieur, s'il vous plaît ? Hein ? Parce que...
Voilà. Très bien. Je vous écoute, monsieur Vasseur.
Un nouveau look pour les facteurs et un nouveau confort pour les clients.
TF1, 9 avril 1990.
Désormais, la poste se veut accueillante et efficace. Voici au CNIT La Défense, le prototype du bureau de poste ultra-moderne. Grâce au mur d'automates, on peut acheter timbres, enveloppes et même changer de l'argent sans attendre guichet. L'usager, ou plutôt le client, est content.
Je ne veux pas vous dire qu'il manque le whisky et les petits gâteaux, quand même.
En tant qu'agent télécom à Marseille, on est venu voir un peu à quoi ressemblait cette poste et on trouve que vraiment c'est futuriste, de l'an 2000. C'est super.
200 millions de francs investis sur 4 ans pour simplifier la vie de l'usager. La multiplication des automates permettra de gagner du temps. Performance, accueil et pour le préposé, un nouveau profil de carrière, tout cela fait partie de la réforme engagée par Paul Quillès.
Nous voulons allier deux choses qui paraissent contradictoires, mais qui ne le seront plus, le service public et la présence sur le secteur concurrentiel. Si nous ne faisons pas cela, eh bien, demain, nous risquons d'avoir un service public qui dépérit.
C'est déjà pas bien, mais uniquement pour la France.
Alors, et mise en œuvre de scénarios de réforme structurelle. Ça date pas d'hier, cette histoire. 1er janvier 88, séparation des PTT en France Télécom et en La Poste. 2 juillet 1990, France Télécom devient exploitant du droit public, personnalité morale distincte de l'État. Juillet 96, devient société anonyme, France Télécom, dont l'État est le seul actionnaire. Le prétexte, ouverture à la concurrence. Le 1er janvier 1998, septembre 2004, l'État passe sous la barre des 50% du capital de France Télécom et aujourd'hui est à 27% du capital de France Télécom. Scénario de réforme structurelle. Alors, on retourne à Étréaupont, où réforme structurelle ou scénario, les Français s'entêtent.
Alors ici on s'est bagarré, enfin on se bagarre à Étréaupont pour défendre nos bureaux de poste. Hein.
Ah bah oui, on s'est déjà bagarré plus d'une fois, hein. C'est déjà combien, la deux, troisième fois, hein. C'est essayer de les faire céder, mais vous croyez qu'ils vont demander notre avis?
De toute façon, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Quand on en reparle, c'est déjà fait.
Bon. Non, on va essayer de se battre jusqu'au bout. Il faut continuer à se battre. Autrement, si on laisse faire, il n'y aura plus rien.
Monsieur le maire, comment on s'est organisé ici à Étréaupont pour mener la bataille?
Alors, en premier lieu, donc, j'ai été contacté par les dirigeants de la Poste qui m'ont fait cette proposition de fermeture l'après-midi.
C'était quand ça?
Alors c'était il y a deux mois à peu près. et de ce fait-là, donc, nous en avons parlé en conseil municipal. Donc, nous avons voté une délibération qui nous s'opposant fermement à ce projet. Ensuite, on a contacté donc les commerçants et les artisans du village qui se sont opposés fermement. Et la population s'est mobilisée parce qu'il y a une pétition qui a circulé dans le village et on a récolté plus de 500 à 600 signatures.
Sur 940 habitants.
Voilà. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les gens étaient très attachés à leur bureau de poste et aux services qu'ils apportaient. Le fait de privatiser, c'est vrai que c'est rentré dans, je dirais, dans le monde du capitalisme. Et c'est vrai qu'on en oublie, là, le service rendu à la population. On en oublie aussi les hommes. Et ça, c'est bien dommage.
Alors là, on est en pays de tirage, c'est ça, un pays où on a l'habitude de se battre. Les églises sont fortifiées, on a résisté à l'envahisseur. Et c'est aussi une lutte pour l'identité, quoi. C'est tout à l'heure, il y a un monsieur qui me disait, on nous a tout retiré ici. C'est un peu le dernier rempart. On ne veut pas qu'on touche à notre bureau de poste. On veut pas disparaître, quoi.
Voilà. Alors c'est vrai que je dirais en combat l'envahisseur. On est dans une région où il y a eu beaucoup de passages d'invasion antérieurement. Et c'est vrai qu'on a peut-être encore je dirais la fibre de défense, la fibre de défendre nos intérêts justement. Et le combat au sujet de la poste est un de nos combats.
On va fortifier la poste contre les financiers.
Bientôt, oui.
C'est parce que tout le monde est de gauche ici qu'on veut défendre les services publics ?
Qu'on soit de gauche ou de droite, un service public, c'est un service public. Je sais pas, il n'y a pas de politique à rentrer dans la poste, je sais pas, n'en sais rien.
Oh, c'est les dossiers de Paris qui sont en grève parmi les dizaines et les centaines de milliers sur le plan national. Et ici à Paris, nous avons une énorme manifestation.
La Dupont-Aignan, une nouvelle fois, vous prenez une position qui n'est pas semblable à celle de votre ancienne famille politique. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, le 23 septembre, à la manifestation
Nicolas Dupont-Aignan.
De la privatisation de la Poste?
Écoutez, je ne suis pas de gauche, mais la Poste, elle appartient à tous les Français. C'est la propriété de tous les Français. Et je n'accepte pas qu'on la mette aux enchères. La privatisation veut dire à terme une réduction du service très importante, notamment dans les campagnes. C'est 10 ou 15 millions de Français qui ont un contact avec le service public uniquement par la Poste. Et je crois qu'on peut réformer la Poste autrement.
Alors on est dans un contexte particulier où ceux qui craignaient le marché, qui craignaient les capitaux privés, la capacité des capitaux privés à moderniser, à améliorer les services, on les qualifiait d'archaïques. Aujourd'hui, dans le contexte de la crise américaine, où l'État réinvestit certains secteurs, on a l'impression que finalement il y a un retour en arrière.
C'est pas un retour en arrière, c'est au contraire un progrès. Au nom de quoi devrions-nous détruire le service public ? La France a un territoire étendu. Il y a quantité de zones où aucun service privé n'est rentable. Il faut arrêter de mentir aux Français. Si on privatise la Poste, c'est la fin de ce service public dans à peu près le quart du territoire français. Est-ce qu'on veut que nos territoires ruraux meurent un peu plus ? C'est ça la vraie question. Alors moi je crois qu'on peut moderniser la Poste, l'améliorer, affronter la concurrence intelligemment, en renforçant l'investissement de la Caisse des dépôts, en modernisant les statuts, pourquoi pas, mais surtout en n'introduisant pas l'engrenage de l'actionnaire privé qui va vouloir prélever comme à EDF une part toujours plus importante au détriment de l'intérêt général.
Haïti, les actionnaires et Sarkozy, nous n'en voulons pas.
Bonjour, Lambert, France Inter. Alors, Jean-Marc Ayrault, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée. Vous êtes dans la manifestation aujourd'hui, le 23 septembre, pour défendre la Poste.
Avec une délégation de députés socialistes, François Brott, vice-président du groupe et qui est chargé de ce dossier de la Poste, nous sommes là au cœur de cette manifestation pour exprimer notre solidarité avec les postiers, mais aussi dire notre attachement profond à un service public qui est très cher au cœur des Français.
Alors c'est rigolo que ce soit vous qui disiez ça, parce que quand on demande aux postiers, ben, ça remonte à quand les problèmes que vous rencontrez, tous disent qui laisse Rocard.
Non, mais début parce qu'on rappelle la séparation entre la Poste et les télécommunications. Mais la Poste, les socialistes n'ont jamais porté atteinte au statut de la Poste, au statut des postiers, ni privatisé ce service. C'est un peu injuste de dire ça. Maintenant, il s'agit de construire l'avenir, et construire l'avenir, c'est pas la fatalité de la privatisation.
Donc aujourd'hui, au Parti Socialiste, on n'est plus favorable aux privatisations.
Ben, écoutez, je pense que dans le cas du service public de la Poste, c'est pour nous un point de désaccord profond avec l'actuel gouvernement et l'actuelle majorité, surtout à une époque de crise financière, mais vigilance, parce qu'on ne sait jamais. Avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu avec EDF,
On ne devait pas ouvrir le capital et ça s'est fait quand même.
Alors là dans le cortège, il y a une délégation du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avec donc présidée par Jean-Marc Ayrault, le président du groupe. Oui. Qui vient là dire à quel point au Parti Socialiste on est contre la privatisation de la Poste.
Je trouve qu'ils montent pas de culot, parce que c'est vrai que c'est eux qui le plan qu'ils laissent, c'est le plan qui a scissionné en deux la Poste et France Télécom.
C'était en quelle année ça?
Ça c'était en 88 je crois, et en 97 c'est quand même la gauche, le gouvernement de la gauche plurielle qui a privatisé France Télécom. Alors qu'ils viennent nous soutenir, pourquoi pas, hein, c'est eux qui ont préparé la privatisation de la Poste. La droite continue le travail, mais bon...
C'est les postiers Paris qui sont en grève parmi les dizaines et les centaines de milliers, enfin les dizaines de milliers de grévistes au plan national. Et ici à Paris, nous avons une énorme manifestation. Eh oui, Bailly, les actionnaires et Sarkozy, nous n'en voulons pas. Nous voulons conserver une poste de service public accessible à tous, en tout point du territoire. Pour cela, Bailly, n'arrête pas de m'en dire et accéléra, Bailly. Aujourd'hui, les postiers te rendent le seul message qu'il faut. Ils sont en grève.
Ça, c'est de la hargue. Accéléra, Bailly. C'était le 23 septembre, manif pour défendre la Poste française. Je dis française parce que si on regarde dans les pays en voie de libéralisation de la Poste, le coût social est énorme. En Suède, par exemple, la Suède, vous vous souvenez du modèle suédois? Eh bien, en Suède, la privatisation a entraîné la suppression de 25% des effectifs de la Poste suédoise et 70% d'augmentation des tarifs. Qu'en pense Frédéric Lordon, économiste fameux et chercheur au CNRS?
La Poste, ça c'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle du tout. C'est même à pleurer, hein, parce que la Poste est dans le sillage exact de la politique Sarkozy, qui fait des moulinets mais qui propose plus de la même chose. Donc voilà, c'est pour ainsi dire, nous avons vu le train états-unien passer dans le précipice à toute vapeur. Allons-y nous-mêmes. Bon. Et la Poste, c'est le comble de l'incohérence, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. Au moment où la finance libéralisée et concurrentielle est en train de partir en morceaux et montre l'ampleur des désastres dont elle est capable, et je dirais même davantage, montre l'ampleur des désastres qu'elle est nécessairement vouée à produire. À ce moment-là, que faisons-nous? Nous privatisons la Poste. Donc on la met dans la main des actionnaires privés. Et les actionnaires privés vont exiger la rentabilité des capitaux propres, comme ils font dans toutes les entreprises qui sont sous leur coupe. Et où est-ce qu'on trouve la rentabilité susceptible de satisfaire des actionnaires privés? Pas dans la distribution du courrier, vous vous en doutez, mais dans la vente des produits financiers. Alors voilà, on va livrer la Poste à la concurrence financière la plus débridée, donc on va mettre les comptes chèques postaux, les livrets A, on va les exposer au risque d'une déconfiture financière, dont je dis qu'elle ne manquera pas de se produire à structure financière invariante, hein, bien sûr. Car là, on peut compter sur les dirigeants de la Poste privatisée qui vont être frétillants comme des gardons. Maintenant, ils sont mondialisés. Ils vont pouvoir aller recevoir les embruns du grand marché et de l'océan concurrentiel et financier. Et puis alors, surtout, ils sont assis sur un tas d'or. Parce que la Poste, c'est les comptes chèques postaux, c'est les livrets A, et il y en a pour un paquet. Et donc, ils ont une force de frappe financière qui est tout à fait considérable. Je dis que cette Poste-là fera des conneries, c'est écrit. Elle en a déjà fait, hein. Elle en a déjà fait il y a quelques années, au moment où elle avait proposé des produits d'épargne action à rendement garanti. Puis on s'était aperçu en lisant les contrats qui étaient écrits en toute petite ligne comme d'habitude que finalement c'était pas si garanti que ça. Moyennant quoi, les épargnants qui avaient confié leurs avoirs à la Poste en espérant avoir du 5 ou du 10% garanti se sont retrouvés en ayant perdu leur culotte. Bon, donc cette poste-là va suivre le chemin de Washington Mutual, la caisse d'épargne américaine, qui est en train de faire faillite actuellement, qui doit être reprise en urgence. Elle va suivre le chemin de ce qu'on appelle les money market funds, qui sont en gros des SICAV monétaires aux États-Unis et qui sont en train eux aussi de boire la tasse et de faire face à des retraits massifs. Je veux dire, elles vont suivre le chemin des fonds de pension états-uniens, qui là aussi sont en train de manger chaud. Je dis que cette poste-là fera des conneries, c'est écrit.
et le boudin et la rillette. Et ben voilà à quoi peut parfois ressembler le service public.
Donc ça, c'est une boucherie qui a été...
Qui a été rachetée par la mairie. Hein, il y a quelques années, le boucher était parti, donc la mairie a racheté et a trouvé un gérant. Et actuellement, elle a l'air de bien marcher et on en est content.
Ça veut dire que, en gros, le marché tout seul ne faisait pas son boulot. Il n'y avait pas de repreneur pour cette mairie qui a pris sur elle de racheter le fonds de commerce.
Et de mettre le local aux normes, aux nouvelles normes.
Allez, on va aller visiter cette boucherie.
La semaine prochaine, mercredi.
Là, c'est l'andouillette crue, andouillette 2-3, boudin noir, fabrication maison, les saucisses, Francfort, Strasbourg, tout ça. Tous les pâtés sont fabriqués maison. Le boudin blanc, là, on a commencé. Jambon blanc, c'est également.
Alors, comment ça s'est passé pour vous, votre installation ici à Étré-au-Pont ?
Eh bien, nous, on avait vu cette annonce sur Internet. Et donc, on avait pris rendez-vous avec monsieur Duval, qui était encore maire. Qu'il était, lui, très préoccupé par la fermeture de la boucherie. Donc, il pensait que ça allait fermer. Et donc, il était très content de nous voir arriver. En plus, pour moi, on est jeune. Donc, il s'est dit, bon, ben voilà, sa boucherie a encore quelques années devant elle, quoi. Donc, on est locataire. Les murs appartiennent à la mairie.
En fait, c'est comme un service public de la boucherie-charcuterie, quoi.
Voilà, exactement.
Et les gens viennent ici comme pour défendre le service public de la boucherie-charcuterie. Ils viennent, ils font l'effort.
Oui, exactement, ils font l'effort de venir parce que bon, il n'y en a plus qu'une, donc ils se disent, bon, plus de boucherie. Bon, après, c'est un village qui meurt. Hein.
Antoine, attendez! Je vous accompagne.
Bienvenue chez les Ch'tis.
Tu connais la route, hein? Je vous accompagne. Il est temps que vous appreniez à dire non.
C'est vous le patron?
Bonjour,
M. Maillet.
Bonjour, Tizot. Philippe Abraham, je suis le directeur de la Poste de Berg.
Ah, bah, c'est gentil de venir dire bonjour. Bah, entrez deux minutes.
Hop. Non, merci, M. Maillet. C'est bien gentil, mais on va y aller. Il est un petit peu tôt pour l'apéritif.
Bah, vous voulez même pas prendre un chaud café?
Ah, un café, là, c'est différent. C'est pas de refus. Allez.
Oui, tu as une goutte de Genève dedans?
Pas pour moi, merci.
Le Genève, c'est typique du Nord. Goûtez juste. Au pire, ça va vous désinfecter. Allez, santé.
Ça, c'est des boîtes toutes neuves. Ils viennent de les mettre il y a quelques jours. Avant, c'était complètement négatif.
Ça sèche longtemps, en fait.
Voilà, c'est tout.
Vous allez assez.
Ah ouais, regardez,
ouais. Il faut. Joy, facteur dans la vraie vie.
Merci, vous aussi. Voilà. Mais là, on a déjà fait un petit pâté de maison. Pour l'instant, personne ne vous a proposé l'apéro, vous êtes rentré chez personne. Parce que moi, j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis.
Ouais.
Et je m'attendais à ce que ce soit une matinée un petit peu alcoolisée, quoi.
Non. Bonjour, monsieur Brumard. Ça vous fait rire, hein?
Non, c'est quand j'étais gosse dans les campagnes, le facteur, passé, effectivement, il avait son petit verre de vin rouge. Hein.
Bon, et quand j'étais gosse aussi, à la campagne, parce que je suis à la campagne.
Le facteur, il avait le petit verre de vin rouge. Hein. Allez.
Non, mais ici, non. Ici, ça n'existe plus. Hein. Ou très peu. Hein. Très peu.
Il n'y a plus que dans le Nord que ça se fait.
Mais bon, maintenant, c'est compliqué. Ce temps social qu'on passe dans la rue avec les gens et tout, pour la direction, il n'est même pas reconnu. Il nous a été taxé. Bonjour. Il nous a été taxé de temps parasite. Ce qui pour nous nous a baissé énormément parce que nous on fait du travail social, ça nous arrive d'ouvrir le courrier, de l'expliquer aux gens, ça nous arrive ça.
C'est-à-dire ?
Ben les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, donc si on comprend, on explique des trucs fiscaux ou je sais pas moi des courriers administratifs, ça m'est arrivé ça souvent. Ouais. Après tout, tout le monde n'a pas n'a pas eu la sagesse d'aller à l'école, et c'est bien dommage, mais bon.
Ou les moyens.
Ou les moyens aussi, bien sûr. Mais tout ça, c'est du temps parasite.
La poste ! Pourquoi vous sonnez ? Faut pas sonner, sinon on ne veut faire à boire.
Mais c'est pour recommander ?
Ah oui, ça c'est différent. Mais attention, on n'entre pas, on ne boit pas.
C'est pour recommander, monsieur Vasseur, faut signer là.
Eh, monsieur Vasseur, essayez, je parle, je timide couramment. Je comprends tout, qu'est-ce que vous dites, hein ? Je timide deuxième langue, écrit, lu, parler.
Ah ! Eh ben ça se fait. Ah. Entrez, je vous offre un petit quelque chose.
Allez.
Oh ouais, le haut, dis donc.
Ah, vous n'avez jamais eu de petite aventurette comme ça, une...
Ça reste mon jardin secret.
On ne mélange pas la vie personnelle et le travail. C'est incompatible.
Quoique.
Quoique.
Parce qu'il y a quand même ce mythe des enfants de facteurs, quoi.
Ah bon, ça existe? Je savais pas.
Ah ça, c'est la clé mystère, c'est la clé dont tout le monde rêve. C'est la clé qui permet de rentrer partout.
Il y en a beaucoup qui l'ont.
Enfin, faut expliquer. Donc en fait, vous avez une petite clé qui rentre dans les serrures des digicodes pour pouvoir rentrer à peu près partout.
Une clé, un passe universel. Donc on rentre dans tous les immeubles où la serrure s'adapte à la clé. On rentre partout. Et il y a que la poste qui a ça.
Et si par exemple les postiers avaient vraiment envie de manifester leur désaccord avec leur patron, Monsieur Bailly, et venir lui faire une petite réception chez lui, vous avez la clé pour entrer en fait.
On pourrait. Il doit s'entourer de précautions, je pense.
Mais on pourrait le faire, c'est pas une mauvaise idée, ça tient,
Je vais le soumettre. C'est pas une mauvaise idée.
C'est bien. Alors, il faut que notre postal reste, hein. En petite confiance, je vous fais confiance. Hein. Je regarde le ciel en même temps.
C'est pas moi qui vais décider, madame.
Non, je sais, mais enfin, ça serait dommage. Normalement, ça doit marcher.
Je vais aller faire écouter ce que vous m'avez dit à Monsieur Bailly, le patron de la poste.
D'accord. Enlever pour moi la poste, c'est enlever ma vie.
On va lui faire entendre ça.
Eh bien, c'est très gentil, monsieur. Très gentil. Allez, au plaisir. Au revoir. C'est tout ça.
Renseignez-vous, il y a des pétitions qui circulent, toute une mobilisation contre la privatisation de la Poste. Et puis on peut dire à cette charmante habitante d'autres d'Étrepont, que effectivement la Poste l'écoute. On a des échos qui nous indiquent que la direction de la Poste écoute cette émission comme celle de vendredi. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Valérie, Sylvie, Joy, Marc, Dominique et Dominique. Merci aux 940 habitants d'Étrepont. À voir La Poste, un drôle de pli, un documentaire de Marie-Pierre Jory chez Point du Jour. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno. C'est Koye Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission. Modeste Génial, assisté de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages sur le répondeur de la place J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis il y a le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.